VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, 11h à Abidjan, Côte d'Ivoire, 6h à Washington, aux États-Unis. Côte d'Ivoire, le calme est revenu aujourd'hui à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, où des militaires des forces spéciales sont descendus dans la rue hier pour manifester en tirant des coups de feu en l'air. Selon un responsable du ministère ivoirien de la Défense, une communication sera faite après le Conseil des ministres qui se tient aujourd'hui même au palais présidentiel. Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, citoyens et participation, fait des propositions pour le retour de la sérénité dans l'armée ivoirienne.
Et une gestion tout à fait opaque d'une situation nationale. Alors la question qu'on se pose en tant qu'observateur, est-ce que réellement les forces armées de Côte d'Ivoire sont une armée qu'on voudrait républicaine, auquel cas il faut faire appel aux institutions républicaines pour gérer la crise? Ou alors si c'est des factions d'armées qui sont d'un camp, alors on accepte l'opacité. Mais il n'est pas tard, la mutinerie à Diaké nous rappelle à nos bons soins, à l'exécutif ivoirien, au président Alassane Ouattara, qu'il devrait gérer cette situation de manière plus transparente, en incluant le Parlement, en incluant l'opposition dans son entièreté et en recherchant l'unité nationale devant un problème aussi grave qui touche notre nation.
Christophe Kwame à Abidjan. Le premier ministre bissau-guinéen Oumaro Sissako Embalo a accusé hier le président guinéen Alpha Condé, médiateur dans la crise politique dans son pays, de jouer un rôle négatif, indiquant qu'il pourrait demander son remplacement dans un entretien avec l'AFP. La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef du PAIGC, auquel tous deux appartiennent. L'opposition burkinabé, elle, a critiqué mardi le pouvoir du président Roch Marc Christian Kabore, jugeant sa gestion chaotique. Pendant sa première année au pouvoir, le Burkina Faso est piloté à vue, ballotté au gré des événements, a déclaré le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, leader de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, lors d'une conférence de presse.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République centrafricaine, des affrontements entre des hommes armés et les forces de sécurité qui tentaient d'interpeller un chef de groupe d'autodéfense ont fait 4 morts à Bangui mardi dans le quartier du PK5, épicentre des violences intercommunautaires dans la capitale centrafricaine. De sources policières, un chef de groupe d'autodéfense connu sous le sobriquet de Big Man, impliqué dans de nombreuses exactions, a fait l'objet d'une interpellation par les forces de sécurité intérieure, appuyées par la force de la MINUSCA, les casques bleus. Big Man et ses éléments ont posé une résistance. Une fusillade a éclaté. Le chef a été neutralisé ainsi que deux de ses hommes. Au Tchad, la décision du président Idriss Déby Itno de ne pas organiser les élections législatives pour des raisons de crise financière ne plaît pas du tout à l'opposition. Réaction de l'opposant historique Yoronga Ngar-Leji.
Ce qui m'écœure, c'est que Déby proroge le mandat des députés, mais n'a jamais daigné proroger son propre mandat. Pourquoi? C'est la même constitution qui a permis la prorogation du mandat des députés. C'est la même constitution qui peut aussi être utilisée pour proroger le mandat de Déby pour éviter des dépenses inutiles. Donc, qu'il s'autoproclame à travers les prorogations, président à vie, parlement à vie, député à vie. Idriss Déby n'a jamais gagné les élections. Donc il ne peut pas organiser une élection législative futile sans qu'il soit sûr de gagner.
L'opposant tchadien Yoronga Ngar-Leji. En République démocratique du Congo, l'opération de révision du fichier électoral continue dans les provinces de l'Est du pays. Au Nord Kivu, malgré certaines critiques de la société civile et de partis politiques contre quelques-uns de ses propres agents et des policiers, la Commission électorale nationale indépendante se félicite du grand pourcentage d'enrôlés en moins de 2 mois. La CENI n'en reconnaît pas moins les défis logistiques et sécuritaires auxquels elle doit faire face. Retrouvons à Goma notre correspondant Charles Ikasereka.
La coordination provinciale des associations de la société civile dénonce ce qu'elle qualifie d'incivisme et les comportements de certains agents de la CENI et certains éléments de la police commis au centre d'enregistrement des électeurs. Thomas Daka Mouiti est le numéro 1 de cette structure ici au Nord Kivu.
Certains groupes armés s'adonnent à arracher les kits dans les centres. Il y a aussi ce virus de monnaie. Ce n'est pas la population qui a engagé ces agents. Donc s'ils ne sont pas payés, ils ne peuvent pas se rabattre sur la population.
À plus de 100 km à l'ouest de Goma, la population appelle la MONUSCO et le gouvernement congolais à s'investir encore plus pour acheminer les kits électoraux et assurer la sécurité des agents dans les coins reculés de la province. Tom Amouri est un notable dans les territoires de Walikale.
Aujourd'hui, une bonne partie de Walikale n'est pas encore servie en kit. Nous appelons la CENI de continuer ses pourparlers avec tous ses partenaires qui devaient intervenir de manière à ce que tous les territoires soient servis en kit électoraux.
Une forte délégation des 13 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Goma depuis ce mardi pour évaluer ensemble avec leurs partenaires la situation sécuritaire et surtout se renseigner plus sur le bon déroulement de cette opération de la révision du fichier électoral. Charlie Kassereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Direction Haïti, Jovenel Moïse est devenu ce mardi 7 février le 58e président de la République haïtienne. Il a prêté serment dans un parlement dominé par son parti, le PHTK, et ses alliés en présence de deux chefs d'État de la région et de délégations venues des États-Unis, du Canada, de la France et d'autres pays. Gabi Dorcy l'a évoqué avec l'analyste politique Georges Michel les défis qui attendent le nouveau président haïtien.
Le président Jovenel Moïse a pris l'engagement de faire redémarrer la production nationale, surtout dans le domaine agricole. Il doit augmenter la richesse nationale. Il a aussi parlé de compétences et d'honnêteté. Et il a trois maîtres mots comme candidat. C'est continuité avec ce qui était bon, correction avec ce qui était mauvais et innovation avec ses idées propres. Il a les mains pleines pour 5 ans, c'est ce que je vois, moi.
Et il a également un Parlement pas entièrement acquis à sa cause, mais où il aura quand même une certaine majorité.
Tout à fait, il a une bonne majorité au Parlement, et ça ne s'était pas vu depuis très longtemps en Haïti, où députés et sénateurs ne sont pas hostiles au pouvoir en place.
Quelle est la situation actuelle du pays, docteur Michel? Comment Jocelyn Privert, le président intérimaire, a-t-il laissé le pays?
Le président Privert a fait ce qu'il a pu. Il a trouvé une situation désastreuse après la mauvaise gestion des deux dernières années du président Martelly. Et il a essayé de redresser la barre. Et on doit donner le mérite au président Privert d'avoir réalisé les élections. Ce n'est pas rien, de bonnes élections. Ce n'est pas sa famille politique qui est montée. Il faut dire les choses clairement. Privert a rempli son rôle. Et il y a un indicateur très simple. C'est la décote de la gourde qui était en train de glisser quand M. Martelly a quitté le pouvoir. Elle perdait 26 centimes, 50 centimes par jour. Et le gouvernement du président Privert a permis de ralentir cette décote.
On ne peut pas parler d'Haïti sans parler de sécurité. Le pays n'est pas sous tutelle officiellement, mais il y a une force internationale présente sur le terrain. Et il y a encore un problème d'insécurité de temps en temps. Que peut faire le nouveau gouvernement, selon vous, à ce niveau?
D'après les renseignements que je crois avoir, le président Jovenel Moïse a promis de restaurer l'armée nationale, qui est la deuxième composante de la force publique, pour remplir le rôle que la composante militaire de la MINUSTAH remplit et remplit imparfaitement, incomplètement. Et j'ai lu dans la presse que le nouvel ambassadeur américain aux Nations Unies a promis de réviser les missions de maintien de la paix. La MINUSTAH est dans le collimateur de l'administration Trump. Cette force coûte 345 millions de dollars l'an, financée à 68% par les États-Unis. Et c'est sûr qu'avant trop longtemps, nous n'aurons plus de MINUSTAH et il va falloir s'occuper sérieusement de la question de l'armée nationale. Et l'armée sera là pour suppléer à la police quand les menaces auront atteint un niveau qui méritera une réponse militaire avec un outil militaire.
Docteur Georges Michel joint à Port-au-Prince, à Washington, il est 6h08.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, trois juges de San Francisco ont entendu mardi les arguments du gouvernement de Donald Trump qui a fait appel de la suspension par un tribunal de son décret très controversé fermant l'entrée des États-Unis aux citoyens de sept pays à majorité musulmane. Lors d'une audience téléphonique qui a duré un peu plus d'une heure, l'avocat de l'administration Trump a assuré à trois juges d'appel fédéraux qui semblaient parfois sceptiques que le président était dans son droit avec ce décret motivé par des craintes sécuritaires et qu'il devait être réinstauré. La session s'est terminée sans décision, mais celle-ci devrait être prise dans la semaine, selon un porte-parole de la Cour. Et puis un chef militaire des rebelles séparatistes de l'est de l'Ukraine, Mikhaïl Tolski, plus connu sous son nom de guerre de Givi, a été tué mercredi dans le fief rebelle de Donetsk. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Et pour terminer, la Colombie et la guérilla de l'ELN doivent entamer aujourd'hui à huis clos en Équateur la première session de pourparlers visant la paix complète pour clore plus d'un demi-siècle de conflits armés après l'accord avec les FARC mardi. Après 3 années de tractations préparatoires menées en secret et des mois de tergiversation, les délégations du gouvernement et de l'ELN ont inauguré leur pourparlers lors d'une session de 45 minutes. Jean-Roger Billon, au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.